Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Rabbi Shai Asayag.
Traité Kiddushin, page 44, DAF Mem Dalet.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Kiddushin Mem Dalet. On était en plein milieu d'une souga. Marloquette, est-ce que le père et la fille peuvent recevoir le guet ou seul le père? Marloquette, est-ce que cette marloquette s'applique aussi dans le cas du mariage ou seulement pour le divorce? Celui qui faisait la différence et qui disait que c'est seulement dans le mariage, dans le divorce, sachant qu'elle était en train de sortir de la tutelle de son père, c'est pour cela que tout le monde serait d'accord qu'il fallait l'accord du père. Mais on avait posé une question, c'est pour ça qu'aujourd'hui on commence avec une nouvelle proposition. On dirait en vérité que Kiddushin, on a besoin de l'accord, c'est pour cela qu'on demande l'accord au père et pas de la jeune fille, mais par contre le divorce, puisque de toute façon on n'a pas besoin d'accord, qu'est-ce que ça change au père si c'est la fille qui reçoit? De toute façon, elle est divorcée, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Demande l'agma. Pourtant, au sujet du Mahamar, du Nivama, il est marqué que c'est sûr qu'on a besoin de son accord, et pourtant, c'est marqué qu'elle peut, elle ou son père, le valider. Jagma, on parle d'un Mahamar forcé, comme Rabbi qui pense que celui qui fait un Mahamar, Beyevimto, sans qu'elle soit d'accord, Rabbi nous dit que ça marche, Rabbi nous dit qu'on ne valide pas. Pourquoi est-ce que Rabbi pense que ça marche? Parce qu'il dit que de la même manière que Bia de Evama, ça marche, c'est bien Mahamar aussi. Ça marche même si c'est Baal Kocham. Ben, on te dit, on l'apprend de Kiddushin. De la même manière que Kiddushin, il faut son accord. Ici aussi, il faut son accord. Quel est Marloquet? Très bien, il nous dit, je préfère rester dans le contexte de Evama. Et donc, j'apprends de Bia de Evama. Ben, on pense que, puisque c'est un Mahamar, ça ressemble à Kiddushin. C'est pour ça que je le mets en parallèle avec Kiddushin. C'est pour cela que Mahamar Baal Kocham ne marche pas. Demande la Gemara, si c'est ainsi, on précise la Gemara que c'est logique de dire comme on l'a dit maintenant, puisque dans ce sujet où on te dit que le Mahamar marche, on te dit Machen Ken Bekilushin. Donc on voit qu'on précise que le Mahamar peut marcher, mais pas le mariage. Donc forcément, on parle d'un Mahamar Baal Kocha. Est-ce que ça pourrait être une Kushia sur Rish Lakish? Rish Lakish te dit non. C'est le véritable d'après Rabbi Yehuda qui te dit que le quoi qu'il en soit, elle est la seule à pouvoir réceptionner ses Kilushin comme son guet. Si c'est Rabbi Yehuda, nous dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'on parle Machen Ken Bekilushin? Rabbi Yehuda parle dans Geoshin. Mais puisqu'on parlait de Mahamar qui ressemble à Kilushin, c'est pour ça qu'on s'est exprimé dans Kilushin. Dans la Gemara, mais question de fond, quelle différence d'après Rabbi Yehuda entre Mahamar et Girushin et Kiddushin? On dit non, Mahamar, c'est une femme qui est déjà presque mariée. C'est pour cela que dans Mahamar, il pense qu'elle peut elle-même donner son accord. Mais dans Kiddushin ou dans Girushin, le changement de statut n'est pas engagé. C'est pour cela qu'il faut qu'elle ait l'accord de son père et c'est seulement son père. Dis la Gemara, après que tu m'as donné cette réponse, je peux revenir sur la première approche et dire que d'après Rabbi Yochanan, le Kiddushin, c'est différent de Mahamar, puisque Mahamar, elle est déjà skuka ve'omedet, elle est déjà engagée. Même Michel nous enseigne qu'un homme peut être mekadesh et sa fille quand elle est nara, que ce soit lui ou par son chalier. On dit la Gemara seulement lui et beau Beshlocho, oui, ça marche, mais elle et son chalier, ça ne marche pas, donc ça va contre Shlakish. Shlakish te dit, inachiname, mais ça va d'après Rabbi Yehuda. Et c'est Rabbi Yehuda qui pense que c'est seulement son père. Non, la Gemara, comment est-ce que tu peux expliquer que cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda? Arrête la Mishnah à venir, hein, c'est forcément d'après Rabbi Shimon. Là-bas, il est marqué qu'un homme qui a déjà une famille de Kachili, avec cette date, et à chaque fois, il dit Kachili avec cette date, eh bien, c'est ça qui va faire qu'on va partager chacune des dates et qu'on devra vérifier est-ce que chaque date vaut une pouta. Et donc, on te dit que là-bas, c'est Rabbi Shimon qui pense que il faut que, dans le terme de Shuvah, il faut qu'il dise Shuvah à chacun pour être Hayav de Korban sur la Shuvah sur chacun. Donc, on va d'après Rabbi Shimon. Ah, tu voudrais me dire qu'en vérité, on veut ses BMET, tout ça, ça va d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Shimon, c'est pas vrai, puisque on a une marloquette. Premier avis, me dit que le klal, c'est, il est chayav qu'une seule fois, prat, il est chayav sur chacun. Rabbi, ça c'est Rabbi. Mais Rabbi Yehuda nous dit que quand il a dit Shuvah, l'olecha, 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 sans dire à chaque fois Shuvah, c'est déjà suffisant. Rabbi Yehuda nous dit l'olecha, 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 Shuvah, il est chayav sur chacun. Et c'est Rabbi Shimon qui vient te dire, il faut qu'il dise Shuvah sur chacun. Donc on voit que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont en marloquette à ce sujet. Donc la Sefa ne peut pas aller d'après Rabbi Yehuda. Donc chez nous aussi, ça ne peut pas aller d'après Rabbi Yehuda. Là, moi, tu as raison. Mais Matz va tout d'après Rabbi Shimon. Et dans Shlichut, Rabbi Shimon pense comme Rabbi Yehuda. Bien si, il est rentré au Beit HaMidrash. Il a rencontré Rabbi Zera. Il lui a dit, qu'est-ce qu'ils étudient au Beit HaMidrash? Il lui a dit, moi aussi, je n'étais pas là-bas. C'est Rabbi Avin qui était là-bas. Il a dit que se sont tous associés pour valider ce qu'avait dit Rabbi Yochanan, qu'il avait une différence entre le mariage et le divorce. Et Rish Lakish, lui, était en train de se défendre. Et il leur disait, Ve'at Sabaïta. Et personne n'a fait attention. Il lui a dit, mais dis-moi, Rabbi Avin, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer? Il lui a dit, bien sûr. C'est comme quand tu sors un poisson directement pour le mettre dans la poêle. C'est-à-dire que lui, il a ramené cet enseignement du Beit HaMidrash dans les médias. Quand j'ai dit parler de Rabbi Avin, c'est pas Rabbi Avin Barabbi Ria, c'est pas Rabbi Bar Kaval, c'est Stam Rabbi Avin. Pourquoi est-ce qu'il précise? Si jamais tu vas amener une contradiction dans les paroles de Rabbi Avin, il faudra savoir qui est le fameux Rabbi Avin. Demande la Gemara, demande Rava à Rav Nachman. Une Nehara, est-ce qu'elle peut faire un shler pour réceptionner son guet de son mari? Est-ce qu'elle est comme la main de son père ou comme le chatzal de son père? C'est-à-dire, si elle est comme la main de son père de la même manière que son père peut faire un shaliach, elle aussi elle peut faire un shaliach, ou si elle est comme le chatzal de son père, eh bien il faudra que ça arrive dans sa main, elle pourrait pas faire un shler. Moi, tu penses que Rava, il a un safek à ce niveau-là. Pourtant, Rava nous a dit que s'il a écrit un guet et qu'il l'a mis dans les mains d'un esclave, bien qu'il est en train de dormir et qu'il est en train de dormir, il faut qu'elle soit à côté et le guet est validé. Mais si jamais l'esclave est réveillé, ça n'est pas un guet. Pourquoi? Parce que c'est Chatser Ameshtamer et Chelomidata, c'est-à-dire c'est le Eved qui lui décide de ne pas se déplacer. Donc, tu vois que le Eved est considéré comme un Chatser. Si tu penses qu'elle est comme Chatser Avia, même quand le guet arriverait dans ses mains, elle ne devrait pas être divorcée puisque c'est un Chatser qui n'est pas Mishtamer Dat du père. Et là, forcément, on considère que c'est comme la main de son père. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle a suffisamment de pouvoir comme la main de son père pour faire un Sheliach ou pas? Il lui a dit non, elle ne peut pas faire un Sheliach. Pourtant, elle a marqué qu'une enfant qui a dit Kabel et Giti, ça n'est pas un guet tant que le guet n'est pas arrivé chez elle. Mais si c'était une Nara, on a dit la Gemara, ça aurait été un guet. La Gemara nous dit, on parle d'un cas où elle n'a pas de père. Et c'est pour cela que elle pourrait nommer un Sheliach. La Gemara, ça fait marquer que si, il a dit son père. Va recevoir le guet pour ma fille. Si le mari veut, il peut encore changer d'avis. Il ne pourra plus changer d'avis puisque c'est défini comme Shler Kabbalah. On dit à Gmar, j'en déduis que si on parle d'un père qui est présent, donc elle en a un père. Donc comment est-ce que tu peux dire qu'elle nomme Sheliach seulement quand elle n'a pas de père? On dit à Gmar, en vérité, c'est comme ça. Il faut dire comme ça. Une Ktana qui a dit reçoit mon guet, c'est pas mon guet. Pourquoi? Parce qu'une Ktana ne peut pas faire Sheliach. Donc il faut que le guet soit arrivé dans sa main. Si c'était une Nahara, ça aurait pu être un mon guet. Dans quel cas, quand elle n'a pas de père? Mais si elle a un père et que le père a nommé Sheliach Kabbalah, le mari ne pourra plus revenir en arrière. La Gemara nous ramène une Ktana qui a été mitkadeshet shelo le da'atavia, c'est-à-dire qui a réceptionné des kilushin sans que son père soit au courant. Shmuel nous dit qu'elle a besoin d'un guet, elle a besoin de mioun. Karna, il a dit, mais c'est étonnant ce que tu dis quoi? Elle a besoin d'un guet et de ça. Si elle a besoin de guet, pourquoi mioun? Si elle a besoin de mioun, pourquoi un guet? Ils lui ont dit, Marukva et son bedin, ils ont inversé les auteurs et ils ont envoyé à Rav. Parce que comme nous explique Rashi, Rav était l'ami de Shmuel et on voulait voir s'il allait d'accord avec les paroles de ce qu'on lui présentait comme étant Shmuel ou les paroles vraiment de Shmuel. Et Rav, il a été choqué. Il a dit, c'est sûr qu'elle a besoin de guet et de mioun, comme avait dit Shmuel, pas comme on lui avait présenté. Et le pauvre fils de... comment est-ce qu'on peut dire sur la descendance de Abba Barabba, le père de Shmuel, qui pourrait dire une erreur pareille? Alors, Bémet, pourquoi est-ce qu'il faut un guet et mioun? La Gemara nous explique. Il faut un guet de peur que le PLR ait été d'accord avec ses kilushin, donc elle est peut-être déjà mariée, et elle a besoin d'un mioun. Maintenant qu'on lui a imposé un guet, donc les gens vont s'imaginer qu'elle est divorcée. Et donc, s'il voudrait se marier avec cette femme, on dirait que les kilushin n'ont pas été validés. Donc on va permettre à sa sœur, à la sœur de cette femme-là, de se marier avec une autre personne sans qu'elle ait reçu de guet de son mari qui est véritablement son mari. C'est pour ça qu'on a imposé mioun, pour dire qu'en vérité, elle n'était pas mariée avec cet homme-là. Et donc les kilushin qu'il ferait avec sa sœur seraient des kilushin. C'est pour cela qu'on fera ce qu'il faut faire, c'est-à-dire imposer un divorce de cette seconde femme. En deux mots, on a un safek, est-ce qu'elle est mariée ou pas? Alors, Rav nous dit, quand est-ce qu'on a fait ça fait seulement quand il y a eu Shilurim. C'est-à-dire, il y a eu des échanges entre ce gendre et ce beau-père. Seulement, dans ce cas-là, on suppose qu'il est possible que le père était d'accord de ce mariage. Rav nous dit, ni mioun, ni get. Rav nous dit quoi? Même si Behemet y parlait de se marier entre eux, nous disons, man de matina le matina. C'est-à-dire, il y a une explication qui dit que la marloquette, elle était même seulement quand il n'y avait pas de Shilurim. Et à ce sujet, Oula nous dit pas du tout, il y a besoin ni get ni mioun, on ne suppose pas que le père soit d'accord de ce Kilushim. Celui qui explique que Shmuel s'était exprimé dans le cas de Shilurim, il n'y a pas de marloquette à ce sujet. Autre version, Oula nous dit qu'une Ktana, donc là on parle d'une Ktana chez Nkatcha, chez Loleda Atavia, on parlait aussi tout à l'heure de ça, à Filou Mioun et Natsricham. Yon Lagma, pourtant, il a marqué que quand il y a Tsarat Erva, si la Erva est morte ou divorcée ou s'est avérée être Aïlonite, eh bien la Tsara devra faire Iboum. Autre cas qui est marqué. On parle d'un cas de Mioun. Qui est-ce qui a fait ce Kilushin? Si c'est son père qui a fait, comment est-ce qu'on pourrait se suffire de Mioun? Alors il faudrait un divorce. Et là forcément, c'est elle qui a accepté. Et tu vois qu'elle a besoin de faire Mioun. Il répond lui-même, non, on parle d'une femme qui a déjà été mariée. Son père est vivant et elle a déjà été mariée. Et maintenant, elle veut se marier à nouveau. Et c'est pour cela qu'elle a besoin de faire Mioun. Autre question, on demande la Gemara. Au sujet d'une fille, il est marqué qu'on n'a pas le droit de la vendre. On n'a pas le droit de la vendre à ses proches parce qu'il faut qu'il y ait une possibilité de Yihoud. Rabbi Lazar ne nous dit pas du tout. On peut la vendre même aux proches. Tout le monde est d'accord que si jamais, que s'il veut, il peut la vendre. Almana le Kohen Gadol, Grusha le Khalutza le Kohen Idiot. Puisqu'il peut y avoir, bien que c'est interdit, un mariage. Demande la Gemara, comment est-ce que tu peux avoir une fille qui est almanam? Aré, si c'est son père qui l'a mariée et qu'elle a perdu son mari, comment est-ce qu'il pourrait aujourd'hui la vendre? Aré, un homme ne peut pas vendre sa fille après qu'il l'a déjà mariée. Elle a forcément, elle s'est mariée d'elle-même et on l'appelle almana. La Gemara, pas du tout. On parle de Kiddushayou de d'après Abusa Bervuda. C'est-à-dire, elle a été vendue comme esclave et son maître en a fait sa femme. Et il y a Yehoud, on n'appelle pas ça que le père l'a vendue parce que ce qui la transforme en femme n'est pas l'argent de la vente, mais le fait qu'il est mochel sur le travail qu'elle est censée faire. Donc elle est almana. Et c'est comme ça qu'elle a ce statut de almana. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. On a donné deux explications pour ce que d'après Rabbi Houda, on serait d'accord que dans Kilushin, seul le père peut réceptionner. Ou alors parce que comme elle quitte la tutelle de son père, eh bien c'est le père qui doit donner son accord. Ou alors puisque dans les Kilushin, on a besoin de l'accord, ça ne peut pas être fait bal kocha, il faut demander au père. Dans le Mahamar, Rabbi Houda serait d'accord que même si c'est bal kocha, que ce soit elle ou son père, ça serait validé. Pourquoi? Puisque le Mahamar, elle est déjà un petit peu sous la tutelle de son mari. On a vu une marloquette quand est-ce qu'une personne est khayav sur plusieurs chevois. Est-ce qu'il faut qu'il dise à chaque fois chevois ou simplement quand il dit et toi aussi, c'est aussi khayav. On s'est posé la question, est-ce qu'une Nahara pouvait nommer un chaliar? On a conclu qu'elle ne pouvait pas nommer un chaliar, bien qu'elle ait considéré qu'en la main de son père, elle n'a pas le pouvoir de nommer un chaliar. On a ramené le marloquet au sujet d'une ktana qui s'est mariée, qui a réceptionné des kiddushin sans que son père donnait son accord. Shouman nous dit qu'on a un safek et c'est pour cela qu'elle doit et faire get et recevoir un get. Après qu'elle reçoit un get, on la force aussi à faire mioun. Oula nous dit que même mioun, il n'y a pas besoin ni get ni mioun. Marloquet, est-ce que Shmuel s'est exprimé seulement quand il y a eu des shidouchim ou même quand il n'y a pas eu de shidouchim? On a ramené des cas où il y avait mioun. On a expliqué, on a vu une braïta, une mishnah, il y avait marqué qu'il y avait mioun. On a expliqué qu'on parlait d'une jeune fille qui avait déjà été mariée. Et on a vu une femme qui est vendue par son père. Il ne peut pas la vendre à un proche parce qu'il faut qu'il y ait une possibilité de youd. Ou il y a un avis qui pense que oui, même s'il n'y a pas de possibilité de youd. Tout le monde est d'accord que même s'il y a possibilité de youd, bien sûr, on a le droit de la vendre. Mais d'affecter là-bas au Hachem et demain, Bezrat Hachem.